Le Métropolis, naissance de la tectonique. Un documentaire de Jérôme Massella et Laurent Polleret. Première partie, un triomphe périphérique.
Le palace n'est pas une boîte comme les autres. Il rappelle dans un lieu original des plaisirs ordinairement dispersés. Celui du théâtre comme édifice amoureusement préservé, jouissance de la vue. L'excitation du moderne, l'exploration de sensations visuelles neuves dues à des techniques nouvelles, la joie de la danse, le charme des rencontres possibles. Tout cela réuni fait quelque chose de très ancien qu'on appelle la fête et qui est bien différent de la distraction. Tout un dispositif de sensations destiné à rendre les gens heureux le temps d'une nuit. Le nouveau, c'est cette impression de synthèse, de totalité, de complexité. Je suis dans un lieu qui se suffit à lui-même. Roland Barthes, Vogue Homme, 1978.
C'est vrai, ça marche aussi pour le Métropolis. Ce club où tu rentres pour la première fois, qui est comme une planète, quelque chose de nouveau. Un monde imaginaire, un monde où on a envie de se libérer, de se connecter avec chaque personne qui est dedans, chaque personne qui est dans le même état d'esprit, le partage, ces lumières qui passent de partout, ce côté sombre, ce côté fluo, ce côté magique. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qui a été propice à la création de ce mouvement-là. Ce mouvement-là n'aurait jamais pu exister ailleurs, et grâce à Cyril et Alex, qui ont fait un travail merveilleux dans leur création de leur concept de soirée. Et c'est pour ça que quand on a essayé de l'amener dans d'autres clubs en France, avec les danseurs, ça n'avait pas du tout la même magie. C'est le Métropolis. C'est ce grand club suspendu sur un pont, cette grande salle avec cette mezzanine, cette hauteur. C'est ce design qui est à la fois ancien, mais qui reste une utopie de la nuit hors du temps.
Une demi-heure de route pour aller jusqu'au Métropolis parce que c'est loin dans la tête des gens. C'est à 30 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de là où j'habite. L'arrivée sur le parking, déjà il faut trouver une place et Dieu sait que c'est compliqué à tel point qu'il y a deux parkings qui sont monstrueux, mais on va y arriver. On est entre potes, on se retrouve pour un before autour de notre bagnole. Donc on va boire un verre ou deux histoire de s'ambiancer un petit peu et puis après on sait qu'on va en avoir pour une, deux heures de queue parce que y a trop de monde. Donc on arrive à l'escalator où cet énorme escalier passerelle qui surplombe l'autoroute d'Orly et là devant nous, des deux côtés, tu te retrouves avec 3000 personnes qui comme toi vont attendre mais pour le coup ça se passe bien parce que les gens sont là dans une bonne ambiance. On papote entre nous, ça permet d'échanger, tu viens d'où, tu fais quoi, et puis ça permet de passer le temps. Et puis après, on arrive donc dans cette énorme entrée du Métropolis, des caisses dans tous les sens, donc pareil, il faut choisir la sienne. Et puis on se retrouve derrière, et là, c'est la claque visuelle, parce que tu te retrouves avec une énorme salle qui fait peut-être 10 mètres de plafond, dont le toit peut s'ouvrir pour justement faire sortir la chaleur tellement il fait chaud, des fois on arrive à 40 degrés, tellement justement il y a cette énergie qui se dégage et on va commencer un petit peu à faire le tour, à voir où est le DJ booth, où sont les bars, où sont les VIP et puis on se rend compte en fait qu'il y a une mezzanine encore, donc on va faire un tour là-haut, il y a un petit snacking, on peut s'arrêter, on peut manger un petit truc à la cool en attendant que effectivement la soirée commence, que l'ambiance arrive et puis on nous dit qu'il y a encore des salles en bas, alors là on découvre pour le coup, donc on descend les escaliers et là on se retrouve avec 4 salles complètement différentes, de la salsa, des années 80, du hip-hop R&B. Enfin voilà, c'est juste magique pour nous parce que dans une seule et même discothèque, on a la possibilité d'avoir 5 ambiances.
Jean-Michel Villemode, vous êtes architecte et designer. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au pont d'Orly qui accueille la discothèque Le Métropolis ?
C'est un bâtiment qui m'a toujours fasciné parce que je me suis dit c'est vraiment une porte d'entrée dans Paris. C'est vraiment la porte d'entrée dans Paris. C'est le premier bâtiment sous lequel on passe. C'est comme une sorte d'arc de triomphe, si vous voulez. C'est un bâtiment incroyable. Et quand on le regarde bien en détail, si on enlève tous les ajouts et tous les parasites qui ont été mis dessus, on s'aperçoit que c'est un projet de très grande élégance et qui mériterait d'ailleurs d'être remis en état. J'ai toujours rêvé de le remettre en état. Il a beaucoup de force, c'est un bâtiment puissant, si vous voulez.
Et dans quel contexte est construit ce pont autoroutier ?
En 68, Orly était un jeune aéroport. Il y avait encore des caravelles. Rungis était un lieu en naissance. Il se préparait à recevoir aussi une grande partie des Halles. Et donc, c'était une zone un peu en devenir, en développement, si vous voulez. Après, bon, à l'époque, pour enjamber une autoroute ou ce grand nombre de voies de circulation, il fallait une structure. Là, le Vimont avait choisi une structure béton. Ça aurait pu être une structure métallique, qui a peut-être été aussi très, très imposante. Il a choisi le béton. Et c'est une belle signature de l'époque, si vous voulez, un beau témoignage de ce qu'on peut faire en béton.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous trouvez beau, éventuellement, dans l'idée ou dans l'utopie du projet original ?
C'est un bâtiment qui répond à un besoin avec une technologie, avec des contingences. C'est-à-dire que le besoin, il faut enjamber 6 ou 8 voies de routiers. On a un point d'appui entre les deux et on a un point d'appui sur chacune des berges. Voilà, c'est ça. Il y a le côté pont habité aussi qui est intéressant, si vous voulez. Les ponts, normalement, c'est faire pour passer des véhicules. Là, c'est pour du public, pour des gens qui passent d'un quartier à l'autre. C'est pour des gens qui travaillent d'un côté et qui habitent dans l'autre quartier. Si vous voulez. À vrai dire, ce qui m'intéressait, c'était sa position dans l'espace, sa construction assez pure, assez légère, et le fait que ce puisse être un socle pour créer quelque chose de nouveau.
Et pourquoi ce bâtiment vous a intéressé, vous ? Comment s'est opéré le coup de foudre ?
Parce que je le trouve beau, si vous voulez, c'est un truc tout à fait personnel. Si vous voulez trouver un lieu, le trouver beau, beaucoup de gens le trouvaient horrible. Et puis, c'est une bonne base pour construire, concevoir quelque chose. C'est un point de départ, ça peut être un socle pour un énorme espace en suspension, une énorme sculpture, une sculpture habitée, ça peut être... Tout est possible.
Et pourtant, c'est devenu assez rapidement un restaurant routier, puis une boîte de nuit. On a l'impression que l'utopie n'a pas fonctionné. Comment vous analysez ça ?
Je pense qu'il appartient en grande partie à Rungis, et que personne n'a eu l'idée ou l'envie de le développer, et s'est contenté d'avoir des loyers un petit peu éphémères comme ça, et de le louer un petit peu comme ça venait, un jour à une boîte de nuit, un jour à des restaurants, un jour c'est tout.
Alors moi c'est un lieu que j'adore, comme architecture, je trouve que c'est une sorte de vision architecturale, effectivement ce pont dressé, cet hangar comme ça, qui est comme posé au-dessus de l'autoroute, juste à côté Voilà. Et après, il a une chose, il a un modernisme ou une sorte de radicalité, mais presque par-devers lui, d'une certaine manière, ou par-devers l'endroit où on voyait la radicalité. Une sorte de brutalité, même, parce que c'est une sorte d'objet post-moderniste, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'est pas post-moderne au sens de la culture post-moderne qui est hyper choisie, mais il est après le post-modernisme, et presque il serait un modèle original du post-modernisme. C'est-à-dire ce truc parmi les parkings, au-dessus de l'autoroute, à côté des entrepôts, comme un entrepôt lui-même, même dans son design, utilisant les lasers, un objet très spectaculaire en fait. Moi, j'étais pas quelqu'un qui fréquentait, mais j'ai dû y aller. Il y avait quelque chose de très beau et avec une autre population.
Alexandre Barouzdine, comment en êtes-vous arrivé avec Cyril Blanc à devenir directeur artistique du Métropolis à 23 ans ?
Alors, ça s'est pas fait du premier tour. On a passé à peu près 2 années en Angleterre à s'occuper... comme tout le monde, à faire des petits boulots dans la restauration. Et puis, on aimait tellement cette nightlife anglaise, cette vibe que l'on voyait dans tous les sens. On avait une amie qui s'occupait des soirées Melt au Turn Mills, qui nous a donné l'opportunité de pouvoir regarder derrière comment s'organisait un événement. Donc on a découvert effectivement le booking d'artistes, on a découvert la gestion d'artistes sur place, comment elle flyait, parce qu'à l'époque on flyait dans les rues encore, dans tous les magasins et ce genre de choses. Et c'est vrai que on s'est tout de suite pris au jeu et ça correspondait exactement à ce que l'on voulait faire. Donc on a donné un petit coup de main à titre gracieux justement à l'organisation des soirées Melt. Et c'est comme ça, arrivé à Paris, de retour à Paris, qu'on a eu, en fait, grâce à un ami qui était le directeur du Métropolis à l'époque, Jean-Luc, la possibilité, lors d'une discussion, de nous dire, écoutez, si ça vous intéresse, les gars, allez-y, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Carte blanche sur le style, sur le look. Nous, à l'époque, on arrivait de Londres, donc obligatoirement, on avait découvert la techno, que l'on connaissait déjà évidemment avec des DJ comme Laurent Garnier ou Jack de Marseille qu'on avait en France, hein. Mais nous là-bas en Angleterre, il y avait différentes encore sonorités, et bizarrement dans ces soirées ils arrivaient en fait à les mixer. Donc je pense que pour ce passage à l'an 2000, la direction elle s'est dit, et si on se renouvelait, si on se réinventait, peut-être avec des musiques nouvelles, des soirées nouvelles, des nouveaux organisateurs, des nouveaux directeurs artistiques, faisons un test.
Et alors, vers quoi vous dirigez ?
Et alors, très simplement, on se dirige vers un petit peu ce que l'on a vu, ce que l'on s'est inspiré de l'Angleterre. On avait participé à une soirée qui était complètement underground, dans les sous-sols, entre guillemets, avec que de la lumière noire. Il y avait du fluo partout. Et on n'avait pas vu ça, nous, en fait, à Paris. Et on s'était dit, et si on faisait une soirée dans le noir, que des lumières fluo. On met des bracelets phosphorescents, fluorescents, des lunettes, des gants blancs, enfin la totale. Et donc, on se dit, pourquoi pas cette thématique ? Et on va l'appeler Blackout. Donc vraiment, on éteint tout. Comparativement à une discothèque traditionnelle avec ses lights qui tournent dans tous les sens, là, il n'y avait pas de lumière. C'était le but, c'était l'ambiance. Donc très, très, très sombre. Et par contre, effectivement, du fluo dans tous les sens, qui donnait un petit côté sympa, un petit côté neuf.
Combien de temps cette aventure a duré ?
Alors, Blackout, on était parti sur la lancée, mais alors on s'éclatait à chaque soirée, il y avait de plus en plus de monde. La sauce avait réussi à prendre. On avait même réussi à exporter, alors en France, mais pour nous c'était déjà énorme à notre âge, d'aller jusqu'à Rouen où on faisait les soirées au Trax chez des amis qui avaient une discothèque à Rouen. On avait même fait un char lors de la Gay Pride à Rouen qui s'appelait Blackout avec le Trax. À Paris, rebelote, lors de la Gay Pride, on avait un char avec le Métropolis, Blackout, en partenariat avec Radio FG. Donc vraiment, quelque chose de très lourd. Sauf qu'en fait, on commençait tellement à prendre de place et à se faire connaître qu'un jour, on reçoit en fait une lettre d'injonction d'une personne qui est propriétaire de la marque Blackout. Tout s'arrête parce qu'en fait, on comprend pas ce qui nous arrive. On a 22 ans, on sait même pas ce que c'est que l'INPI, on sait pas ce que c'est qu'une marque, à part celle que, effectivement, on a l'habitude d'avoir, mais on savait pas qu'on pouvait protéger une soirée. Et donc là, on se retrouve, entre guillemets, avec une problématique énorme, c'est vous arrêter du jour au lendemain, ou sinon vous allez payer, et vous allez payer cher. Alors là, la soirée du samedi s'arrête, parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser le nom Blackout. Branle-bas de combat dans tous les sens. Il faut trouver autre chose, parce que la clientèle est là, les DJ sont là, les bookings sont là. On se dit, mais c'est pas possible, on peut pas arrêter l'aventure que l'on a commencé à mettre en place. La discothèque est pleine, les gens adorent. Il faut absolument qu'on travaille sur autre chose, qu'on trouve un nom, qu'on trouve un logo, qu'on se réinvente, qu'on retrouve une nouvelle identité visuelle.
Alors, quel concept ?
Alors, on se met d'accord tous autour de la table pour se dire que la soirée va s'appeler Tectonique. Tectonique, c'était lié à quelque chose qu'on avait vu pas très longtemps avant, qui s'était passé en Afrique, une sorte d'éruption volcanique qui avait fait bouger deux plaques tectoniques qui s'étaient effectivement rentrées l'une dans l'autre, qui avaient créé un bordel pas possible. Et en fait, nous, on s'était vraiment reconnus dans cette analogie, si tu veux, des plaques qui se rencontrent, parce que nous, dans nos soirées qu'on avait voulu créer, justement, ce nouveau concept, on s'était dit, finalement, on va rajouter des nouveaux styles musicaux. qui vont venir s'imbriquer les uns dans les autres, qui n'ont pas forcément lieu d'être en même temps, et pourtant on va les faire se rencontrer, d'où ce côté très violent de la tectonique.
Que vous allez protéger, j'imagine.
Alors là, cette fois-ci, oui. Là, cette fois-ci, on se dit, bon, on s'est fait avoir une fois, pas deux. Donc, comment est-ce que l'on fait? Parce que là, pour le coup, là, on n'en sait rien du tout. On commence avec une page blanche. Hein. On a 22 ans, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on avait la chance, en fait, d'avoir un ami connaissait très bien, justement, David Guetta, qui nous réussit à nous prendre un rendez-vous avec lui, donc au bain douche. Il était encore avec Cathy Guetta au bain douche. Il avait son bureau qui était au premier étage. Et on lui explique notre problématique et c'est là qu'il nous dit « Mais attendez les gars, il faut absolument que vous protégiez votre marque, non pas forcément pour derrière en fait espérer en gagner des milliards, mais simplement pour éviter qu'il y ait des gens quelque part en France ou ailleurs qui refassent la même soirée sous le même nom que vous, mais avec un concept qui n'aurait rien à voir. Donc protégez-vous, ça va mettre un cadre, ça va vous protéger. » Donc pour ça, vous allez à l'INPI et vous allez chercher qu'est-ce que nous on a fait avec Ludo à l'époque, ils avaient protégé les soirées Scream. Donc vous allez là-bas, vous cherchez et puis vous faites comme nous.
La Tectonique est une soirée créée dans les années 2000 par Alex Barouzin et Cyril Blanc. C'est une soirée qui est nouvelle, tectonique comme tectonique des plaques. Donc ces plaques qui viennent de s'entrechoquer, la musique du Nord qui est plutôt Belgique, Hollande, donc hardstyle, jumpstyle, un peu d'hardcore, et la musique du Sud, Ibisenco, la musique Ibiza de cette époque-là, plus électro, plus rond, plus minimal, house. La Tectonique, c'est un mouvement qui est né par le partage de plein de clubbers. Donc Tectonique, pendant plusieurs années, a créé une identité très forte à travers leur direction artistique, à travers les choix musicaux, mais aussi la scénographie dans les clubs. C'est un mouvement qui englobe la danse, le style vestimentaire, la musique et aussi la mentalité, le partage avant tout.
Et comment est composé ce look très codifié ?
Alors le look très codifié, un style vestimentaire de teufeur un peu fashion, donc un peu sexy, c'est-à-dire des pantalons treillis, blancs en général ou noirs, avec des chaussures de boxe. Quand je dis boxe, je parle de boxe française évidemment, et des t-shirts moulants, beaucoup de fluo sur les t-shirts, dans les cheveux et principalement des guêtres au poignet et aux chevilles, ce qui va permettre de danser avec la lumière noire. Quand je dis danser, je parle de la danse. Pourquoi? Parce que imagine les mouvements de bolas. Qu'est-ce que c'est les bolas? Les bolas, c'est des jeux de lumière avec le feu. En vrai, je pourrais prendre deux lumières dans chaque main et m'amuser à faire des mouvements circulaires qui partiraient dans tous les sens.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe. Il y a d'un côté le côté jump et de l'autre le côté souple. Qu'est-ce qui fait qu'une danse tectonique est réussie?
Une danse tectonique est réussie grâce à, tout d'abord, la musicalité et la maîtrise du mouvement. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui danse bien, on le voit tout de suite, hein, déjà, c'est quelqu'un qui est en rythme, tout simplement. Et puis, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec la musique, qui s'amuse avec, qui s'amuse à prendre chaque rythmique de la musique dans des temps, des contretemps. C'est une danse avec beaucoup d'énergie. Pour te donner un peu un sens figuré de la danse, imagine une balle de rebond qui vient s'élancer et qui vient frapper partout et à chaque fois qu'elle a un impact contre un mur ou contre un sol, elle vient taper avec la musique, contre la basse ou la caisse claire. Et donc c'est cette énergie en fait qui part et qui ne s'arrête jamais, mais qui a à la fois des mouvements saccadés, des mouvements d'impact et des mouvements à la fois incontrôlés et contrôlés. C'est une danse libre qui permet de, avant tout, se défouler, qui permet de textoriser plein de choses. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de succès.
Alors, mais j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe dans la danse, parce que d'un côté, il y a le côté jump, le côté brutal qui vient marquer le rythme. Et d'un autre côté, il y a un côté très souple avec les bras. Est-ce que tu peux expliquer l'alliage de ces deux philosophies de danse?
Alors, le jump style, c'est vrai que c'est une danse qui vient du Nord, donc plutôt de la Belgique. C'est une danse qui est frappée avec les pieds, avec le corps qui se balance vers l'avant et l'arrière. En gros, je lance ma jambe droite vers l'avant et puis je la fais basculer vers l'arrière. Et au moment où je la fais basculer vers l'arrière, ma jambe gauche passe vers l'avant. Et tu vois ce mouvement un peu de balancer avant-arrière et ses bras et les bras devant qui viennent comme si tu courais. Mais en fait, en vrai, tu fais du surplace. C'est très super que je puisse te la montrer en vrai, mais on a la radio.
Et comment se démarquer? Comment être original?
En vrai, libre à la créativité dans cette danse. Je ne suis pas le seul à avoir créé cette danse. J'ai participé à la création de ce mouvement. En gros, cette danse-là, c'est une danse Au début, ça se lançait très, on était très statique. Donc, il n'y a pas vraiment de mouvement de pieds ou de déplacement. C'était que les bras. C'est une danse qui s'est lancée plutôt sur place avec des mouvements de corps et de débalancés de hanches de chaque côté. Et puis, petit à petit, peut-être qu'en fait, le jump style a permis de se déplacer, de permettre d'avoir des mouvements de déplacement vers la droite, vers l'arrière. Et ce qui a surtout permis que cette danse-là soit très riche, très forte, c'est le mélange de chaque culture de personnes qui vient dans ce mouvement-là. Donc, tu peux retrouver tout stéréotype de personnes et d'origine de personnes. Et c'est ça la richesse de ce mouvement. C'est-à-dire que chaque personne a ramené des connaissances qu'il avait et qui a personnalisé des mouvements qu'il voyait chez les autres. C'est-à-dire que je pouvais très bien faire un mouvement et quelqu'un d'autre le voyait et le faisait à sa sauce, avec son énergie, et dit sur une musique ou un rythme différent. Et c'est là toute la beauté de cette danse-là, c'est qu'avec un seul mouvement, tu peux le découpiller en plein de styles. Un simple geste peut avoir un rythme différent.
Pierre Giner, vous êtes commissaire de l'exposition Clubbing, ici au Grand Palais Immersif, à Paris. Quelle est la place du Métropolis sur la scène électro-parisienne ou francilienne ?
Le Métropolis, c'est Paris-Orly, c'est pas Paris-Centre. Et ça fait une très grosse différence.
C'est-à-dire ?
Et ben en fait, c'est pas les mêmes populations, c'est pas le même temps. Il est orienté dans une autre direction, vers la banlieue. Ça, c'est hyper important. C'est un objet réellement populaire, je crois. Là où c'était des objets de communauté, là il y a un objet populaire, beaucoup plus populaire, mais qui correspond à son époque, à la popularisation de l'électro, à la popularisation sans doute de certaines danses, du style même, d'un style qu'on pourrait régler, c'est-à-dire avec les slim, les fluos, ces tenues noires, comment on se coiffe, les étoiles, enfin... Mais il n'empêche que si ça apparaît à cet endroit-là, ou en tout cas ça vient se scénariser à cet endroit-là, c'est que c'est le plateau de quelque chose. Voilà, d'une possibilité, qui n'était pas, c'est-à-dire c'est dans un sens, oui, il y a de l'électro, il y a de la musique plutôt techno, il y a de l'accélération du BPM, enfin, des choses comme ça, mais c'est une sorte de contre-rex quand même, qui n'est pas, c'est pas la même chose, parce que c'est une popularisation de ces styles, peut-être, ou peut-être de ce qui se produisait sur la scène parisienne comme nouvelle musique, mais à cet endroit-là, installé comme un style, ce qui est assez différent en fait. C'est-à-dire, je pense que, bon, d'abord parce que c'est un lieu qui a une énorme image, mais vraiment, enfin, cette image urbaine, dans un sens peut-être qu'il était... Moi, je pense qu'il y a un très gros décalage par rapport au centre, en fait. C'est-à-dire que des bâtiments comme ça dans Paris, il n'y en avait pas. En fait, ça aurait dû être le Berghain de Paris, et en fait, non, c'est autre chose. C'est peut-être, dans son époque, un des clubs architecturalement les plus saisissants, les plus efficaces, quoi, dans l'usage, dans l'architecture de cet objet, sa dimension. Le Métropolis, c'est un objet rutilant, hyper visuel, hyper visible, et qui est un plateau, qui n'est pas une cave. C'est l'inverse de ça. Et c'est en ça qu'il est sans doute très moderne, mais il est presque trop moderne. Et par rapport à cette culture du club, bizarrerie, hein, là aussi. Il incarne une sorte de, pour ceux du club, justement, peut-être discret, hyper pointu, central,
le club du sous-sol.
Voilà, le club du sous-sol, il est vulgaire, en fait. Il est extrêmement vulgaire.
Alexandre Barouzdine, alors après 3-4 années de tectonique, le mouvement se professionnalise.
Le mouvement se professionnalise parce qu'en fait, on prend tellement, on organise des soirées qui sont tellement énormes qu'en fait, on se fait repérer par des maisons de disques. Donc nous, on avait commencé de notre côté à faire deux petites compiles avec une petite maison de disques qui était dans le nord de la France. Et là, on se retrouve avec la chance d'avoir en fait une grande maison de disques qui était venue, hein, qui nous avait repéré, EMI, donc une major company, qui est donc la grosse société de production dans laquelle tu retrouves des très grands artistes. Nous, à l'époque, en même temps, il y avait Matt Pokora, il y avait Diams, voilà, ce sont des grands producteurs, alors qu'à la base, nous, c'est vrai qu'on n'était pas forcément demandeurs.
Vous êtes à votre apogée, c'est la surchauffe ?
Effectivement, le nombre de soirées que l'on enchaîne, on est à peu près à 120 soirées par an. Donc ça veut dire que certains vendredis ou certains samedis, on se divise entre nous, hein, c'est-à-dire entre Cyril, Alexandre, Mathieu, Mehdi, Nathalie, on se retrouve à prendre des billets d'avion. Il y en a un qui part en Espagne au Pacha avec 4 danseurs, il y en a un qui part à Berlin avec 3 danseurs, d'autres qui restent en France, enfin... On ne voit vraiment plus le bout, ça s'enchaîne. Les soirées au Métropolis sont de plus en plus grosses, jusqu'à ce qu'effectivement ça commence même à poser problème d'un point de vue préfectoral avec la 106 qui se retrouve bouchée. L'autre petite autoroute qui mène à Orly, à l'aéroport, elle aussi se retrouve bouchée. Donc tout ça, ben, ça fait un petit peu... On sent que ça génère un peu des tensions parce que 3000 jeunes survoltés qui viennent pour s'éclater, pour s'amuser, qui font la queue parfois jusqu'à... On était obligé d'ouvrir les portes à 21h, tellement il y avait de monde, pour être sûr de pouvoir faire rentrer tout le monde. Mais ces gens-là, en fait, ils sont autour des hôtels. Ça va créer de la tension. Et on se rend compte que d'un point de vue préfectoral, il commence à y avoir des petites tensions. On nous redescend des informations d'un point de vue de la direction du Métropolis. On commence à déranger.
En fait, ça arrive très très vite. Donc en fait, quelques semaines après, voilà, déjà premier plateau télé, la méthode Coé, 2 fois, on a fait la Starac, on a fait une NRJ Music Awards, on avait des tournées en club, donc en fait, il y avait des danseurs. En fait, on était à peu près 12-14, mais il y avait les danseurs stars qui tournaient plus et du coup, qui étaient sur certains événements. On était dispatchés en fait partout, donc en France, en Belgique, en Espagne, en Italie. Certains ont fait des dates aussi à Madagascar. Voilà.
Vous pouvez me raconter par exemple un déplacement qui vous a marqué ?
Une date qui m'a marqué, ça serait peut-être un week-end à Festa Tolosa. On a fait une date en Belgique, donc par exemple on était au Louis Gallery, on avait une limousine qui venait nous chercher en fait, voilà, et qui nous amenait jusqu'en Belgique au club et qui nous ramenait à Paris. Et par exemple, ce jour-là, donc on a fait la soirée et on a dû prendre un avion pour aller à Toulouse, faire la Festa Tolosa, donc du coup sur les chars l'après-midi, et danser encore sur scène la soirée, donc une énorme scène sur la place, et après dans un club. Donc en fait, par exemple, on a fait 2 jours limite sans dormir de prestations, voilà.
Quelle est la première fois que vous avez entendu le mot Mondothèque ?
Alors, Mondothèque, on ne l'a pas entendu comme ça. Il faut savoir que nous, dans les compilations tectoniques que l'on réalisait, on recevait énormément d'emails avec des musiques de DJ qui venaient d'Allemagne, de n'importe où. Hein, partout, ça arrivait de partout. Et un jour, on reçoit une musique que l'on écoute avec Cyril, qui était, mais alors, super sympa pour le coup. Hein. C'était drôle, c'était fun, ça sonnait bien, c'était très radio. Mais le problème, c'est que c'était pas du tout tectonique. Donc, n'étant pas pour tectonique, nous, on a gentiment répondu aux DJ en leur disant écoutez, merci beaucoup d'avoir pensé à nous, mais par contre, ça rentre pas du tout dans la ligne en fait, artistique de tectonique, donc on va pas le retenir.
C'était Le Métropolis, naissance de la tectonique, un documentaire de Jérôme Massella et Laurent Polleret. Première partie, un triomphe périphérique. Avec les visiteurs de l'exposition Clubbing au Grand Palais Immersif, Alexandre Barouzdine, ancien directeur artistique du Métropolis, Mathilda Etrexi, ex-tectonique killer, Pierre Giner, artiste et curateur de l'exposition Clubbing au Grand Palais Immersif, et Jean-Michel Villemotte, architecte.